Vous écoutez Ainsi soit-elle. Cette semaine à Ainsi soit-elle sur les ondes de CKIA FM, c'est toute l'équipe qui est en studio. Bonjour Hélène.
Allô.
Bonjour Marie.
Salut.
Alors aujourd'hui, c'est une émission toute en nouvelles. On va commencer avec une petite nouvelle sur la campagne d'action contre le budget Bachan. On va enchaîner avec une petite nouvelle sur Haïti et avec quelques nouvelles de squat à travers le monde, des nouvelles tirées du journal Allô Révolte qui vient tout juste de sortir. Ensuite, je vais vous parler d'un texte que j'ai lu qui s'appelle « Feminism, Capitalism and the Coming of History ». Et on va continuer ça avec une petite chronique livre, donc une émission très chargée, comme d'habitude, qu'on commence tout de suite en musique avec l'excellent choix musical de Chantal.
Merci Chantal. On va en musique avec A$AP, une chanson qui s'appelle Maybe, et apparemment son album sort au Canada en février prochain, nous dit Chantal, un album qui s'intitulera Beautiful Imperfection. Ok, on est parti.
Maybe, baby, sunrise, baby, baby, ooh, baby, baby, the stars will shine, baby, baby, this world is full of pain, users and their useless ways, there's people dying everywhere, can someone tell me who's to blame? Much attention to security until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. I guess
Allô, allô. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CKIFM 88,3. Vous êtes avec l'équipe d'Ainsi Squat-elle et c'est Hélène derrière le micro. Je vous parle d'une campagne d'action du mouvement des femmes contre le budget Bachand. Il y a beaucoup de détracteurs du mouvement féministe qui avaient prédit un ralentissement des actions après la Marche mondiale des femmes. On se souvient, pendant la Marche mondiale des femmes, il y a quand même eu plusieurs manifestations, même une occupation à Montréal, des blocages de rue un peu partout dans la province. Ben en fait, hier, pour ceux qui nous écoutent en direct, donc lundi de cette semaine, le regroupement de l'Aire des centres de femmes a fait mentir ces détracteurs-là et détractrices aussi, parce qu'ils étaient en action dans plusieurs régions du Québec pour réclamer l'abolition de la contribution santé qui va être exigée dès le prochain rapport d'impôt et qui doit atteindre 200 $ par adulte par année en 2012. Donc ça, c'est une nouvelle mesure qui est proposée dans le budget, qui est imposée dans le budget Bachand et à laquelle la coalition contre la tarification et la privatisation des services publics s'oppose. Et on a vu que depuis la naissance de cette coalition-là, le mouvement féministe est très, très actif, tout comme l'AC d'ailleurs, donc plutôt le mouvement étudiant, donc dans les actions qui sont mises de l'avant pour s'opposer au budget. Dès le début de l'automne, en fait, avec la rentrée, la coalition avait annoncé des actions de perturbation, puis je vous dirais qu'on a vu beaucoup le mouvement féministe et le mouvement étudiant s'activer là-dessus. On a hâte que le mouvement syndical fasse de même. Mais enfin, tout ça pour vous dire que, donc, cette journée-là, donc hier, lundi, il y a eu un peu partout dans la région, occupation, distribution de tracts, action symbolique, un peu partout. D'ailleurs, je vous rappelle que cette revendication-là, donc de l'abolition de la contribution santé, c'était une des revendications portées justement par la Marche mondiale des femmes il y a moins d'un mois. Donc, pour vous rappeler, pour les gens qui ne savent pas, l'Aire des centres de femmes du Québec regroupe 102 centres de femmes qui sont répartis dans 17 régions du Québec. Puis, après vérification faite, l'Aire est un membre associatif de la Fédération des femmes du Québec, donc de la FFQ. Donc, comme Nicolas Lefebvre-Legault le soulignait dans son super blog Voix de fait, c'est une preuve supplémentaire que les Morning Men de Radio Poubelle, comme Sylvain Bouchard, disent n'importe quoi quand ils disent que la FFQ a seulement que 700 membres. Parce que juste avec l'Aire des femmes, ça nous mène à plus... pour l'Aire des femmes, en fait, c'est plus de 10 000 personnes qui sont membres. Donc, pour les actions, un peu en bref, donc le 15 novembre, à Montréal, il y a une trentaine de femmes de 22 à 60 ans qui s'étaient déplacées en provenance de l'Abitibi, de l'Estrie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, Montérégie, Laval et Montréal, évidemment, qui ont occupé le bureau du ministre Bolduc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, sur le site de la FFQ, on a une vidéo qui a été tournée où les femmes lisent une déclaration. Pourquoi elles sont là? Pourquoi elles occupent? À Laval aussi, il y a eu une occupation d'une instance du système de santé et des services sociaux, toujours pour se prononcer contre la privatisation du système de santé. À Québec, ça s'est plutôt passé devant des hôpitaux. Il y a des femmes qui portaient les couleurs de l'Aire des centres des femmes, qui ont distribué des tracts qui dénonçaient la contribution santé, évidemment. Puis, par la suite, elles se sont rendues au bureau du ministre de la Santé pour lui remettre des prescriptions de pilules qu'on n'avale pas, avec un point d'exclamation. Je vous dirais qu'aussi, dans les Laurentides et en Gaspésie, il y a eu aussi distribution de tracts plutôt dans la rue à la population. En Mauricie, c'était un petit peu plus créatif. 2000 pots de pilules contenant autant de prescriptions de pilules qu'on n'avale pas, rédigées par 2000 femmes, ont été déposées devant un hôpital. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans les actions des centres de femmes, c'est que c'est pas juste, supposons, un exécutif ou un comité d'un groupe de militantes plus avertis qui ont rédigé. C'est vraiment les membres des centres de femmes, donc des femmes de la base, on pourrait dire, qui ont participé et pensé l'action. Je vous rappelle que les raisons de l'opposition à la contribution santé, mais d'abord, c'est que pour l'Aire des centres des femmes, cette contribution santé-là, c'est une nouvelle taxe déguisée dans le fond. Cette nouvelle taxe affectera évidemment plus les femmes puisqu'elles gagnent en moyenne 60 % du revenu des hommes. Elle considère aussi que c'est une mesure injuste parce que dans le fond, c'est les personnes à très faible revenu qui vont être exemptées. Mais ça veut dire que les travailleurs et travailleuses à faible revenu, donc à partir de où tu es vraiment pauvre ou que tu es vraiment que tu dois serrer la ceinture, c'est la question qu'on peut se poser. Dans le fond, elles vont vraiment sentir ce poids-là de façon disproportionnée. Puis évidemment, ça s'oppose au principe selon lequel tous et toutes devraient avoir accès à, à des soins de santé quand c'est nécessaire, puis qu'on ne devrait pas avoir à choisir entre une épicerie plus grosse ou des médicaments, bien évidemment. Cette taxe, ça représente aussi une charge 10 fois plus élevée pour une famille composée de 2 adultes et 2 enfants mineurs qui gagnent 30 000 par année après impôt, que pour une famille similaire qui gagne 300 000 par année. Donc, encore une fois, là, on voit qu'il y a un déballassement total. Ce qui est intéressant aussi avec cette campagne-là, c'est qu'il n'y a pas juste des critiques qui sont faites, mais l'Art des Centres des Femmes, dans le fond, propose des avenues. D'abord, le contrôle du coût des médicaments, la révision des mesures fiscales qui sont destinées aux entreprises. Évidemment, on voit que ça, c'est vraiment la ligne qui est tenue tant par le REPAC, tant par le ROC, donc par tout le milieu communautaire, c'est-à-dire de repenser le système fiscal, justement, pour une redistribution de la richesse qui serait plus égalitaire. Donc, contrôle du coût des médicaments, révision des mesures fiscales, il y a aussi l'ajout des paliers d'imposition. On reconnaît là une revendication chère au Front commun des personnes à cité sociale également. Une révision des taux d'imposition à la baisse pour la classe moyenne inférieure et à la hausse pour les revenus de plus de 100 000 $. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher l'argent où elle est et c'est dans les poches des riches, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi avec cette campagne-là, comme je vous le disais, c'est que les centres de femmes sont vraiment ancrés dans leur milieu respectif. Juste pour vous donner une idée, à travers ses membres, le réseau de l'Art des femmes rejoint des dizaines de milliers de Québécoises, mais de tout âge puis de tous les milieux. Donc, les revendications, les critiques viennent pas d'en haut, partent vraiment de la base puis s'appuient sur les témoignages des femmes qui fréquentent ces centres-là. Puis, entre autres, Lynn Cloutier, qui est la présidente de l'Art des femmes, qui disait, dans le fond, qu'elles ont vraiment pu voir dans les dernières années, puis surtout depuis la sortie du budget Bachand, les femmes qui arrivent au centre des femmes, dans le fond, puis qui sont vraiment inquiètes parce que elles sont inquiètes de pas pouvoir payer les soins dont elles ou leurs enfants ou leurs proches ont besoin. Elles sont inquiètes de manquer, dans le fond, d'une espèce de marge de manœuvre, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir à choisir entre l'épicerie, entre les médicaments, entre les vêtements. Donc, cette précarité-là, ça les affecte beaucoup, puis elles sentent un peu comme les laissés pour compte du système de santé et des services sociaux. Peut-être pour conclure, oui. C'est un petit peu ma conclusion. Je l'ai vraiment axé, dans le fond, vous rappeler l'importance de vraiment la place que prend de plus en plus le mouvement féministe au sein de la coalition opposée à la tarification et à l'approbation des services publics. Peut-être par rapport à cette coalition-là, plus largement, se rappeler qu'il y a des actions qui s'en viennent. Comme je vous disais, le mouvement étudiant aussi est très actif. 6 décembre, il y a une grosse, grosse mobilisation qui va se passer, dont on aura l'occasion de reparler certainement. Mais c'est intéressant de voir, avec toute la place qui est accordée dans les médias en ce moment, à la droite, au réseau Liberté Québec, que justement, il faut pas trop être déprimé ou se dire ça va vraiment mal, parce qu'en fait, si on regarde dans la rue, puis si on regarde dans les groupes autour de nous, on voit que ça bouge quand même, donc... Message d'espoir, la lutte n'est pas finie.
Ouais, merci Hélène. On s'en va en musique avec de la DAP. La chanson s'appelle Ska Manka.
Odevla. Toussaint Igelacho. Yoide Shuka. Igen Jones.
Hoppa! Hoppa!
Ka marte kila, tu te lo chan.
sur les ondes de Sekaya, c'est Ainsi soit-elle qui se continue. Evelyne au micro pour continuer avec des petites nouvelles. J'avais envie de vous parler de squat à travers le monde. J'ai trouvé trois nouvelles dans le dernier numéro d'Allo Révolte, qui est un journal dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Le deuxième numéro est sorti aujourd'hui. Vous pouvez vous le procurer à la page noire essentiellement. Et c'est un journal qui recueille un peu comme ça des petites nouvelles à la Allopolis, mais Allopolis des troubles sociaux, donc qui rassemble un peu des émeutes, des affrontements avec la police et des grèves sauvages et des manifestations en tout genre. Donc, je vais vous lire trois petites nouvelles que je trouvais très intéressantes vu le titre de notre émission, Ainsi squat-t-elle, cette notion de réappropriation.
Retour aux sources.
Philippines, 23 septembre, des milliers de squatteurs résistant à leur expulsion ont gagné un sursis provisoire, interrompant temporairement la démolition de quelques 6000 habitations suite à des affrontements avec la police et à la fermeture de l'autoroute principale de la capitale, bloquée par des barricades faites de bois et de pierre. La police a été prise sous une pluie de projectiles alors qu'elle tentait de charger les protestataires et les attaques au canon à eau ont également échoué à les disperser. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés dans l'attaque menée par les habitants du bidonville. Le gouvernement veut transformer le site en un quartier d'affaires en partenariat avec une société privée. La Banque mondiale estime que jusqu'à la moitié des résidents de Maniville vivent dans des taudis. Afrique du Sud, 21 septembre, des affrontements violents ont éclaté entre squatteurs et policiers lorsque ces derniers ont tenté de démanteler un bidonville qui avait vu le jour dans une réserve faunique près de Cape Town. Barricades enflammées, pierres et cocktails Molotov ont répondu aux gaz lacrymogènes et à des tirs de balles réels. Malgré l'offensive armée des serviteurs de la bourgeoisie, les émeutiers ont réussi à mettre le feu à un camion de police sans toutefois empêcher que 62 personnes soient arrêtées. 15 policiers auraient été blessés contre 3 squatteurs. L'objectif était de raser l'ensemble du terrain squatté où habitent pas moins de 200 personnes. 29 cabanes ont été détruites pendant l'intervention policière et 54 autres sont prévues par la ville. Mais pour cela, une décision de justice doit être attendue. En Afrique du Sud, comme ailleurs, la propriété privée est le droit le plus sacré, d'autant plus quand cette propriété se prétend publique. Colombie, 21 septembre, environ une soixantaine de personnes ont affronté la police pour empêcher l'expulsion des squatteurs de leur logement dans le quartier Alcazares de Barrio Unidos, au nord de Bogota. Les expulsés se seraient réfugiés dans l'immeuble de 5 étages pour y lancer des pierres, des bouts de bois et des cocktails Molotov depuis les fenêtres en direction des flics, présents au moins au nombre de 70, accompagnés entre autres de 3 véhicules blindés. Des habitants ont même menacé de faire exploser des conduites de gaz. Après plus de 3 heures d'affrontement, la police a finalement pu entrer dans l'immeuble pour en prendre possession. Les expulsés sont au nombre de 50, 20 adultes et 30 mineurs. Donc, c'est ce genre de nouvelles-là qu'on retrouve dans Allo Révolte.
C'est intéressant, je trouve, de voir les squats vraiment associés, tu sais, dans les bidonvilles. Comme moi, pour le squat auquel j'ai participé à Québec, c'est quand même plus des militantes qui avaient leur appartement. Là, c'est quand même vraiment...
Des personnes qui se
Ou même en France, des amis qu'on peut connaître qui sont plus des punks, qui font des shows de punks dans des squats, mais tu sais, comme que c'est plus
si
un choix de vie.
Vraiment des gens qui habitent là où ils peuvent.
Que c'est nécessaire. Donc, peut-être que c'est d'où aussi leur plus grande vigueur et rage à défendre leur logement. En fait, je trouve ça vraiment intéressant.
Voilà, puis je pense que Marie, tu avais une autre nouvelle pas très réjouissante.
Non, pas très réjouissante, mais en tout cas, c'est la manière dont c'est traité qui est pas très réjouissante. C'était pour parler un petit peu des manifestations qu'il y a eu le 15 novembre, donc c'était il y a 2 jours, en Haïti, au Cap-Haïtien, une ville du Nord. C'est des manifestations populaires, donc c'est des gens qui ont protesté contre la présence de la MINUSTA, qui est la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la paix en Haïti, et qui ont protesté, qui les ont accusés finalement d'être à l'origine de l'épidémie de choléra en Haïti. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler. C'est que eux, ils les accusent d'avoir ils accusent un contingent népalais, donc de la MINUSTA, à Mirbalé, c'est une ville à l'est d'Haïti, qui aurait déposé des matières fécales dans une rivière et donc contaminé en fait les rivières. Et donc l'épidémie de choléra viendrait de là. Bon, selon eux, c'est ce qu'ils revendiquent. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit que c'était pas ça la raison. La MINUSTA, c'est pas vraiment prononcé là-dessus. Et donc il y a eu des manifestations Il y a deux jours, et ils protestaient aussi contre la gestion de l'épidémie par le gouvernement, enfin là, plutôt la non-gestion de l'épidémie, puisque là on voit quand même qu'en 3 semaines il y a quasiment 1000 morts, c'est arrivé donc à Port-au-Prince et tout ça. Et puis j'avais aussi envie de parler parce qu'il y a eu 2 morts pendant ces manifestations. Une personne qui a été tuée par un agent de la MINUSTAH, soi-disant pour légitime défense. Donc quand on sait que les gens de la MINUSTAH des Nations Unies sont très équipés au niveau armement et tout ça, je vois mal comment on peut réussir à agresser quelqu'un. En tout cas, un agent de la MINUSTAH. Et puis donc c'est ça, il est décédé pour ça. Puis il y a un autre jeune qui a été retrouvé mort, en fait, mais on n'a pas su exactement les causes du décès. Donc c'est ça, c'est affaire à suivre, puisqu'il y a encore des gens qui font des manifestations à droite à gauche. Enfin, c'est encore pas très ça s'est pas calmé en fait. Et puis je voulais parler de ça parce que j'ai lu un article dans l'Express que je ne conseille pas du tout, mais qui m'a vraiment énervée parce que en fait ça présente tout l'aspect. Tout le discours politique et gouvernemental et des organisations internationales sur la question. Donc ça présente vraiment ce qui sont des manifestations populaires, en fait. Ça les présente comme des émeutes. Ça dit, par exemple, le chef de la MINUSTAH, qui est brésilien, qui s'appelle Edmond Mulet, qui parle d'agitateurs qui ont profité de la psychose autour de l'épidémie de choléra pour saboter les élections. Enfin, c'est ce discours-là. Ce monsieur Edmond Mulet, donc patron de la MINUSTAH, qui dit, je vous le lis parce que ça vaut le coup, ce qui s'est passé lundi n'est en rien spontané. Ces opérations-là ont été bien planifiées et concertées, sont des empêcheurs de tout acabit d'anciens membres de l'armée haïtienne, certains responsables politiques, des criminels, des groupes hostiles aux élections qui se cachent derrière ces incidents. Donc pour montrer que finalement c'est préparé, c'est un complot, c'est des terroristes. Je veux dire,
c'est des méchants.
C'est des méchants. Ils n'emploient pas le mot terroriste, mais c'est clairement l'idée qu'il y a derrière ça. Donc en voyant ça, moi je m'attends à ce qu'il y ait une répression. Une répression militaire, en fait. Il y a déjà une occupation militaire en Haïti, c'est la MINUSTAH, mais disons qu'à ce qu'il y ait des répressions un peu plus intenses dans les jours prochains. Puis en tout cas, ça brasse beaucoup, là. Les élections sont prévues pour le 28 novembre, je pense. Mm-hmm. Donc ça brasse.
Dans ce contexte-là, en plus, où justement les gens sont malades, etc., l'épidémie, qui est quand même une organisation de base, des gens qui décident d'aller dans la rue pour dénoncer puis dire « Hey, vous êtes supposé être là pour nous aider, mais dans le fond, vous êtes responsable, vous aggravez la crise. » Moi, je trouve ça quand même impressionnant.
Ouais. Puis c'est ça. Il n'y a pas forcément d'enquête sur cette épidémie de choléra, sachant qu'il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de choléra en Haïti avant cette épidémie-là. Mm-hmm. Puis c'est bien arrivé de quelque part.
Il y a clairement une mise en tutelle. Puis justement, avec l'article que tu citais, on le voit encore là. Comment qu'on va dresser un portrait de la population, encore une fois, que c'est des personnes. S'il y a des personnes qui s'organisent, c'est certainement parce que...
Ils se font organiser.
Oui, exactement, puis que c'est de mauvaise foi, puis que...
C'est ça, ce sont des terroristes. En tout cas, il y a quand même eu 2 morts dans l'histoire, et puis voilà.
C'est important de le souligner.
C'est ça. Donc, on continue en musique avec Caravan Palace, chanson qui s'appelle « Jolie coquine ».
What to think I do to me if I just obey you? What to do without you? Yo,
sur les ondes de CKIA FM, c'est toujours Ainsi squat-t-elle. J'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un texte que j'ai lu, je vous cacherai pas, dans le cadre d'un cours. Ça s'appelle « Feminism, Capitalism and the Cunning of History », le féminisme, le capitalisme et les malices de l'histoire, quelque chose comme ça. C'est un texte de Nancy Fraser qui est paru en mars 2009 dans la revue « The New Left Review ». Nancy Fraser, c'est une prof de sciences politiques et de philosophie à la New School for Social Research à New York. C'est une féministe philosophe post-structuraliste. Ça veut dire que, en gros, elle était socialiste, elle était pour une analyse très structurelle du changement puis des rapports sociaux, mais elle a ajouté des éléments plus individuels ou psychologiques ou qui tiennent compte de la liberté individuelle d'agir des acteurs dans son analyse. Elle, c'est une auteure qui est très prolifique et surtout connue pour ses travaux sur la justice sociale. Elle a divisé la justice sociale en trois grandes dimensions, la redistribution, la reconnaissance et la représentation. Ces travaux-là ont été beaucoup débattus. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de cet article-là qui est son plus récent article qui a été traduit en plusieurs langues. Dans ce texte-là, l'auteur démontre comment, selon elle, les changements culturels qui ont été entraînés par la deuxième vague du féminisme, elle situe ça chronologiquement entre les années 70 et aujourd'hui. Ces changements culturels-là, même s'ils sont salutaires en eux-mêmes, donc même s'ils ont amené du bon, elle explique comment, selon elle, ils ont contribué à légitimer une transformation structurelle du capitalisme, le néolibéralisme. Puis elle explique comment le néolibéralisme, dans le fond, ça va pas mal à l'encontre, en ligne droite, des idéaux féministes qui étaient incarnés dans ces critiques-là féministes du capitalisme dans les années de ses débuts des années 70 à aujourd'hui. Donc, Nancy Fraser structure son essai en quatre temps. D'abord, elle décrit ce qu'elle appelle le capitalisme d'État, puis qui était, dans le fond, elle décrit les quatre piliers de ce qu'elle appelle le capitalisme d'État, qui était le capitalisme tel qu'il était lorsque le féminisme de la deuxième vague est apparu dans les années 60-70. Ensuite, elle explique quelles critiques les féministes ont faites à ces quatre piliers du capitalisme d'État-là. Ensuite, elle explique comment, avec le néolibéralisme, ces critiques-là ont été resignifiées pour perdre un petit peu leur sens de base. Et elle termine en proposant des pistes de solutions pour que ces quatre critiques-là du capitalisme soient réintégrées dans une analyse féministe dans un contexte qu'elle constate comme probablement favorable à la fin du néolibéralisme. Donc, elle est très, très, très optimiste en fin de texte. Donc, je vais pas reprendre chacune des quatre sections de son texte une par une, mais je vais plutôt y aller de façon transversale avec la critique des quatre piliers du capitalisme d'État. Les quatre piliers qu'elle identifie sont l'économisme, l'endocentrisme, l'étatisme et le westphalianisme.
Isme.
Voilà, donc on va essayer d'examiner ça plus en détail. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par économisme? C'est le fait que les questions sociales soient principalement conçues comme en termes de redistribution de ressources ou de distribution de ressources. Ce que les féministes ont critiqué de cette vision-là explicitement redistributive des ressources, c'est le fait qu'il y a des rapports d'exploitation qui sont pas dans l'économie. C'est avec le mot d'ordre « le personnel et politique ». Les féministes ont mis en lumière justement des formes d'injustice qui se retrouvaient dans la vie personnelle, dans les sphères culturelles. Et avec l'analyse intersectionnelle, elles ont montré comment, dans le fond, la classe, c'était une des façons d'organiser l'injustice, mais le sexe, l'orientation sexuelle, ils disent la race, c'est toutes des choses qui se mélangent puis qui font que l'injustice subie par certaines personnes est beaucoup plus complexe que simplement en termes de classe. Avec le néolibéralisme, qu'est-ce qui est arrivé à cet économisme-là puis à cette critique-là? C'est que ça a ben gros pogné, dans le fond, les demandes de reconnaissance culturelle. Puis ça l'a éclipsé, en quelque sorte, les formes d'analyse qui prenait l'économie comme structure, puis qui remettait vraiment en cause les classes sociales, la division du travail. Donc, les demandes de redistribution ont été, au lieu d'être complétées par des demandes de reconnaissance ou de représentation politique, par exemple, les demandes de redistribution ont éclipsé les autres demandes. Donc, le culturel, ça a bien, bien gros pogné. Puis le structurel ou l'économique, ça a été mis de côté. Donc, Nancy Fraser propose de réintégrer les dimensions économiques, politiques et culturelles de l'émancipation. Pour elle, la justice sociale, ça doit vraiment intégrer ces trois dimensions-là. On pourra en parler dans un autre moment, à un autre, quelque part, plein de critiques féministes, de d'autres courants féministes de cette approche-là. Mais je voulais quand même commencer par vous présenter son texte. Donc, son deuxième pilier du capitalisme d'État, c'est l'endocentrisme. Strictement parlé, ça veut dire être centré sur les hommes. Donc, pour elle, dans les années 60-70, le citoyen idéal était conçu comme un mâle pourvoyeur. Ce que les féministes ont critiqué de cette approche-là, c'est qu'elles ont montré, dans le fond, comment elles ont mis au jour la division sexuelle du travail. Donc, tout le travail, salarié ou non, qui était fait par des femmes, était dévalorisé. Elles ont, en parlant de travail domestique et de travail de reproduction, elles ont identifié et mis le doigt sur la subordination économique, culturelle et politique des femmes. Malheureusement, avec le néolibéralisme, au nom de l'accès des femmes au marché du travail, dans le fond, c'est comme si le problème était réglé, tu sais. Maintenant, les femmes ont eu accès au marché du travail, donc c'est égal. On n'a plus besoin d'en parler, on n'a plus besoin d'aller voir plus loin. Bien, ça cache la question de la double puis de la triple tâche, le fait que le travail domestique, le travail émotionnel, il y a tout un tas de travail invisible qui est encore majoritairement réalisé par des femmes. Ça cache aussi toute la question de la précarisation du marché du travail, la question de la pauvreté des femmes, la question de la division internationale du travail aussi. Donc, oui, l'accès des femmes au marché du travail ici, mais à quel prix? Dans quelles conditions? Puis, dans le fond, ce qu'elle explique, c'est que, oui, on est passé du modèle du mâle pourvoyeur au modèle du couple qui travaille, mais qu'en général, les conditions de vie se sont pas vraiment améliorées. C'est juste les conditions en général de tout le monde qui sont descendues. Fait que ce qu'elle propose, c'est beaucoup de revaloriser les activités non marchandes comme le soin aux personnes, le travail émotionnel, et de faire que ce soit une composante de la vie de tous et de toutes, donc vraiment. Il n'y a pas nécessairement de proposition très, très concrète associée à ça, mais ça, c'est ma critique plus générale de son texte. Si on en revient à son troisième pilier du capitalisme d'État, c'est ce qu'elle appelle l'étatisme. Si j'ai bien compris, ce qu'elle inclut là-dedans, c'est le fait un peu que les citoyens sont considérés plutôt comme des clients de l'État et que les décisions publiques sont considérées comme des décisions de gestion et non pas comme des décisions politiques. Donc, c'était déjà présent dans les années 70 et ce que les féministes ont critiqué de ça, ben c'est un peu la centralisation là, puis le rapport à l'expertise. En contrepartie, ce qu'elles proposaient, c'était plutôt des relations plus horizontales et qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'elles ont rarement pris position vraiment contre l'État, mais souvent plus pour une démocratie plus participative. Donc, ces femmes-là ont surtout investi des groupes de conscientisation, des groupes de femmes qui en sont venues à être ce qu'on connaît comme étant le secteur communautaire. Avec le néolibéralisme, l'État s'est retiré des secteurs sociaux et a délégué au privé et au communautaire, justement, toutes ces responsabilités au nom de l'empowerment. Donc, ils ont comme resignifié cette critique-là du centralisme de l'État, puis du gros État qui décide pour tout le monde. Puis, ils ont dit, ben oui, regarde, on fait qu'est-ce que vous nous avez demandé, on vous redonne
du pouvoir.
Faites-le maintenant, tu sais, faites-le à notre place. Puis ça, ben ça a évidemment beaucoup, beaucoup de conséquences dont on a certainement eu l'occasion de parler ici, mais ça remet pas vraiment en question, ça donne pas un État qui est vraiment au service de la justice sociale. Fait qu'elle, ce qu'elle propose, c'est de militer un peu plus pour une démocratie participative qui soumettrait justement l'État au pouvoir citoyen dans l'intérêt d'une plus grande justice sociale et pas juste dans l'intérêt de l'entreprise privée puis de l'État puis du déficit zéro, là. Encore là, j'ai bien hâte de voir comment ça se traduit, là, en pratique ces recommandations-là. Mais je vais quand même passer à son quatrième pilier du capitalisme d'État, ce qu'elle appelle le westphalianisme. Bon, ça s'est associé au traité de Westphalie qui a divisé, qui a tracé les frontières entre les États. Là, c'est beaucoup la notion d'État-nation. Donc, le capitalisme d'État repose beaucoup sur la notion d'État-nation qui est conçue comme le principal responsable de la justice sur son territoire. Par rapport au westphalianisme, les féministes de la deuxième vague n'ont pas vraiment rompu ou l'ont pas vraiment critiqué comme tel. C'est sûr qu'elles étaient sensibles à des injustices transnationales, notamment, bon, les mouvements sociaux dans les années 60-70, c'est la guerre du Vietnam, le mouvement contre le nucléaire, tout ça. Mais les féministes, comme les autres mouvements sociaux, ont quand même continué d'adresser leurs demandes aux États, leurs demandes pour plus de justice sociale. Avec le néolibéralisme, les féministes ont été beaucoup mobilisées au niveau transnational grâce aux nouvelles technologies de l'information et des communications. Ils se sont beaucoup, beaucoup investis dans les forums internationaux, dans les trucs comme les grandes conférences internationales, le Caire, Beijing, tout ça. Puis Nancy Fraser critique un peu, elle dit, ben OK, oui, c'est bien beau là, le transnational, mais les résultats concrets, qu'est-ce que ça a comme résultat concret? Les injustices concrètes, c'est encore, selon elle, les États qui ont le pouvoir de transformer des trucs au niveau national. Alors elle, évidemment, elle veut qu'on milite plutôt pour démocratiser la politique internationale parce que elle trouve que, justement, cette politique internationale-là où on adopte des grands principes a très, très peu de liens concrets avec ce qui se passe sur le territoire.
Fait que, ben, comme c'est... que les congrès, comme Beijing, puis le Caire, elle trouve que c'est comme pas du spectacle, mais que ça...
Que ça l'a mobilisé beaucoup d'énergie.
C'est déconnecté des mouvements sociaux, non?
Ben, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, c'est que ça l'a mobilisé beaucoup d'énergie pour peu de résultats.
Concret dans
les lois nationales qui continuent d'être passées, puis de nier des droits aux femmes, par exemple, etc., etc. Donc, elle propose pas nécessairement de réinvestir l'État, mais elle propose, elle, de plutôt démocratiser la politique internationale. Mais moi, ces propositions, comme vous avez vu depuis le début, je les trouve un peu vides.
On sent quand même un petit doute dans la voix.
je les trouve un peu vides, mais dans tous les cas, je trouvais que son texte était très intéressant pour montrer comment...
La récupération.
Comment ça a été récupéré, ces idées-là, puis là, c'est sûr que je vous ai fait un résumé là, c'est ultra simplifié, même si ça avait l'air compliqué là. Son texte est évidemment plus élaboré, mais c'est ça, je trouvais ça vraiment intéressant comment l'anticapitalisme s'était un petit peu perdu là, puis que le mouvement féministe avait l'air ben gros triomphant dans son analyse, parce que évidemment, bon, l'égalité homme-femme s'est rendue une valeur là, qui est un petit peu écrite partout, puis criée sur les toits, puis on pense que c'est réglé, mais je trouvais que dans son analyse, elle montrait comment qu'en perdant l'analyse anticapitaliste puis l'analyse économique des rapports sociaux de sexe, qu'on s'éloignait dans le fond de l'idéal féministe d'une société juste qui prendrait en considération toutes les formes d'injustice puis toutes les formes d'inégalité, parce qu'il y avait quand même beaucoup ça dans le message des féministes de la deuxième vague dès les années 60 et 70.
C'est intéressant parce que cette analyse-là, dans un texte dont j'oublie le nom, de Diane Lamoureux, a ramené un petit peu ça, faire l'analyse historique de comment justement la récupération, puis moi j'ai l'impression qu'on pourrait faire le même parallèle avec le mouvement, par exemple, des libérations des Afro-Américains, tu sais, la récupération des revendications, comment c'est intégré par le discours dominant, puis que t'as pas la vigilance de voir comment c'est appliqué, comment c'est récupéré, puis c'est difficile de remobiliser après, ou en tout cas, c'est ça.
On a l'impression que c'est déjà...
Comme revenir à la critique de base dans ce capitalisme, puis nos amis anarcho-communistes seraient contents de nous entendre, mais ramener la perspective de classe sociale, certainement économique, ou en tout cas, la mettre en relation avec les autres...
Voilà.
Les autres oppressions.
Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur Nancy Fraser. Est-ce que, Marie, tu nous enchaînes ça avec une petite pièce pour qu'on danse encore un peu plus?
Oui, on va continuer. C'est Damien Marley, Welcome to Jamrock.
Out in the street, they call it murder.
Welcome to Jamrock, camp where the thugs and camp at. 2 pounds are within a van back. It in your handbag, your knapsack, it in your backpack. Girlfriend contact some boy, not know this.
Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals and a buck too. The thugs them we do where them got to, and won't think twice to shot to. Don't make them spot to, unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start drop it. We dip in file long and it a beat drop it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. Son of a da power stuff if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings a call. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock lock said them a lock rocket. Then we pull you up a current like a shock socket. Then we run a road block which by the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds a broke back ratchet. Southside, Northside, East Coast, West Coast. Yo, Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.
Sur les ondes de CKFM 88,3, vous écoutez l'émission Ainsi squat-elle. Et on touche déjà à la fin de l'émission. On termine avec une petite chronique livre. Donc, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement, d'Isabelle Gagnon. Le titre, c'est « La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker ». Donc, c'est publié aux éditions du Remue-Ménage. C'est sorti en 2010. Édition du Remue-Ménage, c'est important quand même de souligner qu'en ce moment, sont en campagne de financement. Peut-être vous rappeler, ça peut vous encourager à faire un petit don, même juste de 5 $. C'est la seule baiso d'édition féministe en Amérique du Nord. Donc, c'est le premier roman jeunesse d'Isabelle Gagnon, en fait. Puis, dès le début du livre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est dédié à Liz Strauss-Bichigny, 17 ans, assassinée le 2 août 2009 au Centre gay et lesbien de Tel Aviv. Donc, dans le fond, dès les premières lignes du roman, dès qu'on lit l'introduction, en fait, la dédicace, on voit tout de suite c'est quoi l'angle que Gagnon a voulu donner à son livre. Donc, son objectif, en plus, je vous le dis, c'est ça, c'est un roman jeunesse. Donc, ça s'adresse à un public, à un lectorat adolescent. Donc, son objectif, c'est vraiment de présenter une réalité trop souvent occultée, mais qui est bien réelle puis cruelle pour les personnes homosexuelles. Donc, les thèmes de la violence homophobe, du rejet, de la remise en question identitaire que, ici, l'héroïne, c'est Florence, en fait, que l'héroïne de l'histoire va vivre, c'est vraiment un peu, ça marche un peu comme tableau de... comme tambour de résonance ou en tout cas pour illustrer une réalité qui, selon elle, est vécue par plusieurs adolescents et adolescentes. Donc moi, c'est vraiment cette perspective-là que je trouvais intéressante dans le livre pour avoir consommé beaucoup de romans jeunesse, dont des cœur à cœur, je l'affirme aujourd'hui. Donc c'est intéressant la perspective qui est amenée parce que c'est assez rare. Moi, en tout cas, à ma connaissance, là, de ma brève... très brève expertise sur la question des romans jeunesse. Moi, c'est le premier roman jeunesse que je voyais passer qui traitait d'un amour lesbien. Donc, comment ça... Dans le fond, c'est ça. Isabelle Gagnon, elle donne la voix à des personnages adolescents. Comme je vous le disais, l'héroïne de l'histoire, c'est Florence. Donc, c'est une jeune Québécoise qui, dès le début du livre, c'est ça, à peine a trouvé sa place, elle est un petit peu plus garçon manqué, relation conflictuelle dans sa famille, évidemment, avec ses parents. Et... Le point de départ de l'histoire, en fait, l'événement déclencheur, c'est qu'elle a une amie d'enfance de retour de Londres qui va revenir. Puis là, c'est ça, les sentiments qu'elle va éprouver à son égard, qui étaient refoulés, vont ressortir. Surtout que son amie, elle, a vécu vraiment et assumé une relation homosexuelle à Londres. Donc, elle revient, puis elle va vraiment faire l'exploration de ce type de relation-là avec son amie. Puis comment, au niveau de la forme, le roman est construit, c'est super intéressant parce que ça alterne entre des extraits du journal intime de Florence et une narration plus globale, dans le fond, on dirait omnisciente en cours de littérature, où, dans le fond, on va avoir accès... aux réactions de sa famille, de ses parents, de son petit frère quand il va l'apprendre, qui va dire ben là je vais faire de moi à l'école, sa mère qui éclate en sanglots, qui dit ben on va t'aider, son meilleur ami qui va chercher au début à la comprendre mais qui après va tenter de l'embrasser pour la guérir de son homosexualité. Puis ce qui est intéressant aussi dans le récit, c'est de voir que Florence tout le long est vraiment présenté. Je vous dis, c'est une histoire d'amour lesbienne, mais elle va être attirée par un garçon aussi au cours de... Fait qu'elle se pose vraiment plein de questions sur son orientation sexuelle, puis des questions qu'ici, je sais pas, quand on a 30 ans ou entrer dans le milieu, où est-ce que je suis, c'est beaucoup plus ouvert. Encore avant l'émission, on parlait des relations, sadomaso ou homosexuelles ou queer, où on peut passer de l'un à l'autre, mais là, c'est une jeune fille de 15 ans qui est dans un milieu clairement hétérosexuel, ou tu sais, imaginez, c'est ça qui est intéressant, ce qu'Isabelle Gagnon a fait, c'est la description de romans jeunesse où les cheerleaders sont, les belles filles de l'école sont valorisées, où les joueurs de football, les basketballeurs sont valorisées, puis elle est là, elle joue de la batterie, elle tripe sur le groupe Evanescence, puis là, elle est attirée par une fille, elle a des relations sexuelles avec elle, mais avec un garçon aussi, donc elle vit vraiment ce questionnement-là, mais dans un milieu qui est pas du tout ouvert à ça.
Elles se sont décalées, j'imagine.
Exactement, donc le questionnement identitaire, les déchirements, les remises en question qu'elle vit, puis que ses proches vont vivre, parce que dans le fond, c'est comme ça qu'elle présente Gagnon, finalement, c'est qu'elle dit... À mesure, on suit la démarche de Florence qui peu à peu va s'assumer. Puis à mesure qu'elle décide d'assumer de plus en plus ses choix, mais ses amis, ses membres de sa famille, ses camarades de classe sont obligés aussi de prendre position puis de choisir un camp. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis je vous dirais peut-être pour conclure que j'ai trouvé, c'est sûr que le roman, c'est un roman jeunesse. Donc, tu sais, des fois, je lisais un petit peu plus vite, mais, tu sais, je pense à des parents, par exemple, ou même toute personne adulte, je trouve que en fait, toute personne pourrait se retrouver dans ce livre-là, ou en tout cas, ça donne une clé de lecture, ou de le penser comme ça, que, dans le fond, c'est pas figé, on en a parlé souvent à Sisquatel, comment on peut performer des identités sexuelles, puis l'importance de la socialisation, puis si on le voit, cette jeune fille-là, justement, de 15 ans, qui, tu sais, de toutes ses forces, essaie de se libérer, donc dans ce sens-là, c'est un roman d'apprentissage pour elle, tu sais, que c'est comme une émancipation super douloureuse, mais nécessaire, mais pour les personnes qui lisent le roman aussi, puis qui se disent, dans le fond, ça y prend un sacré courage à elle, juste pour essayer d'être elle-même, finalement, puis ça nous renvoie une image d'une société étriquée, puis les écoles, c'est tellement à l'image de la société, c'est comme des micro-sociétés, puis on voit toute la cruauté, ou comment, finalement, juste le fait d'essayer d'être elle-même, mais parce qu'elle est différente, ça l'isole. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil à ce livre-là. Je rappelle le titre, c'est « La fille qui rêvait d'embrasser Bonnie Parker ». Récit d'un amour à contre-courant, publié chez Remus Ménage en 2010 par Isabelle Gagnon.
On s'en va en musique un tout petit instant avec Actitude Marta Marta, une chanson qui s'appelle « Resurrection ». Thank you.
Vas a tener que escuchar, que escuchar, ay, ay, ay.
Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación. Porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo. Porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos. Que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir. En tiempo de decidir.
C'est déjà ce qui met fin à cette édition d'Ainsi Squat-t-elle. Juste en terminant, un petit calendrier rapidement. Jeudi 18 novembre, à la librairie sociale autogérée La Page Noire, 265 rue Dorchester, c'est le lancement d'un document qui s'appelle La Crise. C'est un événement qui est organisé par l'UCL. Et vendredi le 19 novembre, en 5 à 7, au même endroit, le lancement d'un zine qui s'appelle Goutte de Queer de Coco Rio, dont on a parlé beaucoup, qui est un artiste queer en art visuel. C'est aussi le lancement d'une monographie sur le collectif Les Panthères Roses. Et n'oubliez pas non plus la manifestation de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Mardi, le 23 novembre prochain, ça s'appelle Halte à Charest. Le départ est à 11h30 au cégep Garneau pour se rendre à midi au coin Charest et Saint-Sacrement. Et si les 50 000 personnes et plus qui ont signé la pétition contre le gouvernement sont dans la rue, peut-être que ça va changer quelque chose.
Espérons, espérons. Bonne soirée tout le monde. Salut.
Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder.